Chers collègues, chers amis, bonjour. Après tout ce qui a été déclaré par M. Zolig, M. Strauss-Kahn, Mme Clark, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je vous remercie, Pascal, de nous avoir réunis tous. La présence de nous tous ce matin est le témoignage de l'estime que nous avons à votre égard et à propos du travail que vous accomplissez. Quelques observations. Que s'est-il passé en Afrique? Que pouvons-nous faire? Que devrions-nous faire pour assurer que l'Afrique continue à progresser? Au début de cette crise, j'étais optimiste. Je considérais que l'Afrique ne serait pas touchée. En fait, la crise a débarqué beaucoup plus vite que prévu et risque de durer beaucoup plus longtemps et d'avoir des effets beaucoup plus profonds. Les véhicules qui nous ont apporté la crise ont été les véhicules traditionnels, c'est-à-dire les produits. Partout, la capacité de réagir a été limité. Il est donc normal que les économies qui dépendent le plus des produits aient été les plus durement touchées. Dans l'ensemble de l'Afrique, nous nous sommes posé la question de savoir comment être constamment la victime des hauts et des bas de l'économie. Le deuxième élément caractéristique du ralentissement des économies africaines n'a pas été suffisamment mentionné ici, mais pertinent, c'est de savoir ce qui se passe pour les grandes économies du continent. Quels sont les effets sur le voisinage? L'Afrique du Sud et le Lesotho pourraient être pris comme exemple à ce sujet. Si l'on examine les chiffres, on pourrait dire que la croissance a été diminuée de 3% en moyenne, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Une douzaine de pays se maintiennent avec des croissances de 5%. La raison en est qu'ils sont, ce sont des pays qui ont une meilleure diversification et qui ont opéré des réformes. Une autre douzaine sont exposés mais montrent une résilience étonnante et ont des taux de croissance de 3%. Mais il y a un autre groupe de pays, qui se chiffre à 26 environ, qui sont un sujet de préoccupation très profonde. L'aide pour le commerce est plus importante que jamais pour nous dans ces circonstances. Nous avons été touchés rapidement, mais nous remonterons la pente très lentement. Nous sommes conscients du fait que lorsque la croissance reprendra, nous serons à la traîne. Il y a 3 semaines, je me trouvais en Namibie à l'invitation du président du pays. Je me suis rendu au nord, dans la ville d'Oshakati, sur la frontière de l'Angola. À cet endroit, l'on peut acheter tout ce que l'on veut, des véhicules, des équipements ménagers, des produits de consommation. Les produits sont importés de partout dans le monde et le commerce se poursuit. Et je me demandais comment nous pouvions aider l'Angola, la Namibie, à mieux organiser ce commerce. Dans cette même partie de la Namibie, j'ai visité un chemin de fer qui allait être arrêté. Je parle de la chose parce que chaque fois que l'on parle de commerce régional ou des infrastructures liées au commerce, l'on insiste beaucoup sur les routes. Les routes sont un problème en Afrique. Beaucoup de chefs d'État pensent aux capacités portuaires et aéroportuaires. Nous avons lancé une initiative qui reprend des activités de la Banque mondiale pour examiner les infrastructures portuaires, les retards dans les ports, comment voir comment au cours du temps nous pourrons tirer le meilleur parti de ces capacités portuaires. Depuis que nous sommes réunis à Dar es Salaam, des progrès importants ont été réalisés pour intégrer le commerce dans les plans nationaux. Le nombre de pays qui maintenant ont ouvert leurs frontières 24 heures sur 24 est important. Les retards à la frontière par le passé étaient dus au fait que les frontières étaient fermées. Maintenant, de nombreux pays acceptent que les frontières soient ouvertes constamment. Pour ce qui est de la banque, grâce à une augmentation de nos ressources pour l'intégration régionale, nous avons triplé notre appui aux programmes régionaux liés aux infrastructures, à la capacité de construction des organisations régionales et pour d'autres activités encore. Nous avons également tiré certaines leçons de ce qui s'est fait et je souhaiterais m'y arrêter car je crois que cela est pertinent par rapport à ce que nous traitons ici. L'attribution de l'aide se fait généralement sur un plan national et elle est attribuée en fonction des résultats. Les programmes régionaux offrent des possibilités importantes, mais il y a des contraintes dans les capacités des pays et cela limite nos possibilités d'appuyer les programmes et cela crée une concurrence inutile entre les ressources nationales et les ressources régionales. Je crois que si nous voulons réussir, il est important à ce stade de voir comment les opérations régionales qui sont liées à des opérations nationales, peuvent exercer un effet de levier sur les apports nationaux et les opérations nationales. Dans le cas de la Banque africaine, nous accordons 20% à des programmes régionaux, ce qui est insuffisant. Je crois que la Banque mondiale en fait davantage. Je voudrais être à même de financer davantage des programmes régionaux, car cela a des implications sur le plan national. Mais si l'on fait davantage de programmes régionaux, on s'attend à ce que les pays se débrouillent mieux. Mais les deux plans sont liés, le plan régional et national. Autre élément qui peut servir de leçon dans nos activités, c'est la capacité des organisations régionales. Je suis persuadée que le meilleur moyen de renforcer les capacités des institutions, c'est de les utiliser, de travailler avec elles et de renforcer leurs capacités. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Nous avons beaucoup travaillé sur le développement en Afrique. Une route a été financée récemment, la route transnationale dans certaines régions et des corridors de route entre la Zambie et d'autres pays ont porté des avantages. Il faut que nous ayons davantage de programmes régionaux de ce genre et il faut que ces programmes puissent entraîner une collaboration accrue de la part des communautés locales. Nous avons tenu des réunions à Tunis et je crois que nous allons dans la bonne voie. Je mentionnerai autre chose encore. Au cours des périodes d'ajustement, de nombreux services essentiels pour le commerce continental ont été privatisés, notamment les chemins de fer. Beaucoup de ces services étaient accordés à des conditions de faveur. Les résultats n'ont pas été bons. Il y a un cas de chemin de fer privatisé qui est un succès. Mais il faut réfléchir à la chose, car pour le transport de produits pour les minéraux, les chemins de fer sont essentiels et beaucoup de ces chemins de fer sont dans des conditions déplorables. C'est une question que nous devons examiner, cette question de la privatisation des chemins de fer qui freine les possibilités d'expansion du continent. La crise a touché des secteurs qui dépendent très largement de la demande internationale, ce qui a impliqué un réexamen de la situation dans la région. Si l'on examine l'histoire de l'Afrique, l'on constate que tout dépend du cycle des produits de base. Une fois que la crise sera passée, il faudrait que nous voyions de nouvelles possibilités sur le continent africain. Au cours des 10 dernières années, s'il y a une bonne croissance en Afrique, c'était essentiellement à cause des produits de base, mais également du fait que le commerce régional a augmenté, aussi bien le commerce enregistré que celui qui n'est pas enregistré. Et la quantité d'échanges qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas répertoriés en Afrique est considérable. Je voudrais revenir à un élément qui a été mentionné par Pascal. Au début de la crise, nous estimions que, en tant qu'institution de développement, notre rôle consistait à financer des activités à long terme. Au fur et à mesure que la crise a progressé, il est devenu évident que nous avions affaire à une situation d'urgence et qu'il fallait intervenir. La Banque africaine de développement a donc offert une possibilité qui se chiffre à 1 milliard de dollars, qui a été approuvée et avec avec l'institution d'aide pour le développement, nous allons mener des opérations qui doivent démarrer très rapidement. Un demi-million de dollars a été mis à la disposition d'institutions financières, d'organisations sous-régionales. Une fois que la crise sera terminée, il faudra voir quel est notre rôle dans le financement à long terme. Nous avons sans doute un rôle à long terme à assumer et nous pourrons continuer dans cette mission de financement à long terme des projets. Plusieurs fois, l'on m'a interrogé en me demandant ce que j'avais ramené des réunions, de la réunion de Londres par exemple. Je dirais beaucoup de succès. Le FMI a été doté de ressources abondantes et je remercie M. Strauss-Kahn de la souplesse dont il a fait preuve en réponse aux demandes de pays qui rencontrent des difficultés particulières. Et il faudrait également que nous puissions augmenter nos appuis aux balances des paiements. Il paraît tout à fait évident que le prochain sommet du G20 devra réexaminer la question des pays à faible revenu. C'est un problème qui va subsister, qui ne peut pas disparaître. Il est indispensable de mettre en œuvre ce qui a été décidé à Londres, mais il est indispensable de même de voir ce que font les pays à faible revenu. Il faut renforcer leur potentiel et leur capacité à résister. Je suis optimiste concernant l'Afrique. En général, si cette crise s'était produite il y a 20 ans, le continent africain aurait été dans des difficultés beaucoup plus graves. Mais les réformes qui ont été opérées au cours des 15 dernières années ont mis sur pied un continent beaucoup plus résilient à même de faire face à ces chocs. Je suis frappée également par le fait que les pays riches ont élevé des barrières financières aux échanges, ce qui n'a pas été le cas des pays africains. Cela me frappe. En fait, ils ont accéléré leurs réformes et je félicite les pays africains de l'avoir fait. Je vous remercie et je me réjouis beaucoup de discuter de ces questions aujourd'hui et demain. Merci.